À la une, ce soir.
J'ai l'honneur de présenter le budget 2023-2024 du Québec. Je suis fier d'annoncer l'une des plus importantes baisses d'impôts de l'histoire du Québec.
Jour de budget à Québec, baisse d'impôts au menu, mais les oppositions restent sur leur faim.
C'était déjà irresponsable au moment de la campagne. Avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est carrément de l'entêtement.
Incendie dans le Vieux-Montréal, encore 6 personnes manquent à l'appel.
Je vais assurer les familles qu'on va travailler sans relâche pour être en mesure d'identifier l'ensemble des victimes.
Et les dirigeants de la LHJMQ de retour en commission parlementaire.
Ce week-end, il y a des allégations qui sont venues à nos oreilles.
La Ligue devra-t-elle affronter un nouveau scandale? Voici votre fil de la journée. Bon mardi, le gouvernement Legault promettait des baisses d'impôts. Il a tenu parole alors qu'on est toujours en période d'inflation et que le contexte économique est incertain. Bien, Québec, il vote ses solutions pour soulager un peu notre portefeuille. Un budget sans grande surprise, mais qui mérite qu'on le décortique parce que ça va tous nous toucher. On commence avec Simon Bourassa, notre correspondant parlementaire. Simon, là, le ministre des Finances dit que 2023 sera une année difficile sur le plan économique, mais baisse quand même les impôts tout en promettant de ne pas couper dans les services.
Oui, c'est ce que dit Éric Girard, a parlé même d'une année de transition pour 2023, mais avec quand même des bonnes nouvelles, à savoir que le déficit budgétaire là, sera finalement de 5 milliards de dollars, en fait, pour l'année qui s'est terminée, 5 milliards, alors qu'on parlait plutôt d'un peu plus de 6 milliards initialement. Puis pour la fin de l'exercice budgétaire qu'on vient de présenter, bon, on parle de 4 milliards de dollars. Et revenu attendu, 147,7 millions pour 2023-2024. On réussit à maintenir, puis même à diminuer éventuellement le poids de la dette, 37,4 du PIB au 31 mars 2023. Puis on revient à des niveaux qui sont inférieurs à celui d'avant la pandémie, où est-ce qu'on avait un poids de la dette là, qui était de 40 % du PIB au 31 mars 2020. Bonne croissance économique, et c'est sûr que ça ralentit un peu. Là, on prévoyait 2,8 % en 2022, finalement 0,6 en 2023. Les gros postes de dépenses sont ceux qu'on a l'habitude de voir dans ces chiffres-là. Éducation, santé, transport, mobilité durable, enseignement supérieur. Et puis dans ce qui suit, bien, je vous décortique un peu comment ça va se passer pour les baisses d'impôts, ce qui a été annoncé aussi pour les mesures en santé mentale, ce qui touche le logement, l'habitation et bien sûr le transport collectif.
Bienvenue à la conférence de presse du budget 2023-2024 du gouvernement du Québec.
L'élément central de ce budget est, évidemment, la baisse d'impôts.
Le gouvernement avait promis des baisses d'impôts en campagne électorale et on les retrouve dans le budget. On parle d'un point de pourcentage pour les deux premiers paliers d'imposition. Donc, par exemple, une personne qui vit seule, gagnant 60 000 $ par année, aura droit à une baisse d'impôt de 428 $. Et pour un couple dont chaque conjoint gagne 30 000 $, on parle plutôt d'une baisse de 256 $ par année. À noter que les retenues à la source seront ajustées à partir du mois de juillet prochain sur votre paye. Et puis pour l'excédent, il faudra attendre de produire votre déclaration de revenus 2023.
En santé, c'est le déploiement du plan santé du ministre Dubé qui se poursuit.
Les enjeux qui touchent la santé mentale sont de plus en plus importants au Québec. On se demandait de quelle façon le gouvernement allait répondre. Pour l'instant, on parle d'un investissement de 139,3 millions de $ sur 5 ans, dont 76 millions pour améliorer l'accès aux soins et aux services, notamment pour les jeunes en difficulté, 25 millions de $ pour augmenter le financement des centres de crise qui offrent des services en matière d'intervention psychosociale. Le gouvernement compte aussi financer des mesures pour prendre soin de la santé mentale des nouveaux parents. Et puis, il y a 13 millions de $ qui sont prévus sur 5 ans pour des campagnes de sensibilisation.
Au niveau de l'éducation, pour développer le potentiel des jeunes.
En éducation, bien, il est encore question cette année d'entretien et de rénovation des écoles. On parle d'un investissement de 200 millions de $ d'ici 2027-2028. Ça s'ajoute aux 267 millions qui avaient été annoncés déjà l'an dernier dans le budget 2022-2023. On veut aussi rendre la formation professionnelle plus attrayante. C'est un moyen, selon le gouvernement, de contrer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, 200 millions de $ également pour moderniser les CFP, les centres de formation professionnelle, et pour offrir aussi des bourses dans les programmes qui sont convoités.
Le programme de supplément au logement, qui est bonifié,
Dans plusieurs villes au Québec, il y a des besoins en matière de logement abordable et de logement social. 650 millions de dollars sur 6 ans pour créer 5 250 logements. C'est ce que propose le ministre des Finances dans son budget. Et pour les gens qui ont vu leur loyer augmenter récemment et qui ont besoin d'une aide immédiate, bien, c'est 291,7 millions sur 5 ans. Ça, ça va servir à bonifier la composante logement du crédit d'impôt pour la solidarité, une mesure qui va toucher 1,8 million de personnes au Québec.
400 millions en 2023 pour la relance du transport en commun.
La ministre des Transports cherche des solutions pour ramener du monde dans le transport collectif et pour maintenir l'offre, même si le télétravail a changé la donne. Dès 2023, on parle de 400 millions de dollars pour relancer le transport collectif, des solutions qui vont venir après une tournée de consultation que la ministre va entamer au cours des prochaines semaines. Et le gouvernement demande noir sur blanc dans le budget au gouvernement fédéral de contribuer à cette relance du transport collectif avec des transferts sans condition aux provinces.
Pour la discussion avec Mathieu Dion, chef du bureau de Montréal pour Bloomberg, média spécialisé en économie. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir.
La baisse d'impôts va coûter 9,2 milliards à l'État québécois. Est-ce que c'est une bonne idée des baisses d'impôts dans un contexte de récession possible?
Oui, bien, 9,2 milliards, ça, c'est sur 5 ans, mais en fait, c'est une dépense récurrente pour toujours, là, si rien ne change, 1,7 milliard de dollars par année. Donc, ça vient diminuer les revenus dans un contexte d'incertitude économique. C'est un choix que le gouvernement fait aujourd'hui. Et Éric Girard, vous l'avez entendu, fait valoir que ça va stimuler l'économie. Mais supposons que vous faites 98 000 $ vous avez 814 $ sur une année en réduction d'impôts. 814 divisé par 26 semaines, c'est 30 $ Est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Surtout à partir du 1er juillet, que ça pourrait se faire sentir sur vos salaires. Donc, ça va prendre du temps avant que vous voyez vraiment l'effet. Est-ce qu'il y aura vraiment un effet de stimulus dans un contexte de ralentissement économique si ce n'est pas une récession? La question se pose.
Oui. Cinquième budget du gouvernement Legault. Comment se porte notre dette, Mathieu?
Bien, elle se porte plutôt bien. En fait, on parvient à réduire, à notre objectif de réduire la dette brute sur le produit intérieur brut en dessous de 45 % comme c'était prévu en 2025. Donc, on se donne un nouvel objectif au gouvernement qui est celui de prendre la dette nette. C'est quoi ça, la dette nette? C'est votre dette brute moins les actifs que vous avez en immobilisation. Ça, on peut mettre là-dedans les hôpitaux puis les écoles. Et là, l'objectif, c'est qu'en 2038, on soit à 30 % comme ratio de dette nette sur le produit intérieur brut. Présentement, on est à 37 % et ça va prendre 15 ans. Mais si on n'avait pas fait cette annonce aujourd'hui de réduction d'impôts, ça nous prendrait 10 ans. Ah. Donc, ça montre quand même que ça a une incidence importante sur la dette.
Sur l'enjeu de la croissance économique. C'est ça. Sur l'enjeu de la croissance économique, on dit que c'est une période d'incertitude qui nous attend. En même temps, le ministre semble relativement optimiste. Est-ce qu'il y a des lunettes roses?
La question se pose parce qu'il établit un scénario de récession à 50 %, mais une fois qu'il a dit ça, on ne sent pas du tout qu'il a de l'inquiétude vis-à-vis l'état de l'économie au Québec. Il table sur une croissance économique cette année de 0,6 %, ce qui est plus positif que ce que prévoit le secteur privé, donc les banques. Même Desjardins prévoit en fait un recul de la croissance de 0,2 %, la Banque nationale est à 0,4 %. Éric Girard répond à ça que ça prend en compte le stimulus qu'il offre aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il a des lunettes roses? Disons que beaucoup de gens ont de la misère présentement à prévoir ce que sera l'économie cette année, mais clairement, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est peut-être un peu optimiste à 0,6 %.
Pour les entreprises, on a entendu il y a quelques instants certaines réactions plutôt négatives. Il y a quand même certains incitatifs dans le budget là, pour ces entreprises-là, mais est-ce que c'est assez pour les rendre concurrentielles?
Oui, parce qu'on a parlé de Volkswagen récemment, hein, présentement. Qu'est-ce que ça nous prend pour attirer des gros projets d'investissement? Et aujourd'hui, on annonce 373 millions d'incitatifs fiscaux sur 5 ans pour 100 projets. C'est à peu près 3-4 millions sur 5 ans pour ces projets-là. Donc, ce n'est pas significatif. Ce que Éric Girard répond là-dessus, c'est qu'ils peuvent offrir des mesures ciblées pour certaines entreprises quand elles se présenteront.
Donc, on verra. Merci beaucoup, Mathieu Dion. À bientôt.
Merci.
Il reste en économie alors que la hausse de l'inflation continue de s'essouffler au Canada. En février, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5,2 % alors qu'il était de 5,9 % en janvier. Mais il n'y a toujours pas de répit à l'épicerie. Les prix des aliments ont augmenté de 10,6 % le mois dernier. L'indice des prix à la consommation avait atteint un sommet de 8,1 % en juin dernier au Canada. On revient maintenant sur l'incendie mortel survenu dans le Vieux-Montréal. Les autorités ont fait le point ce matin sur la situation. 6 personnes manquent toujours à l'appel. Marie-Michel, l'enquête suit son cours. Aujourd'hui, les pompiers ont pu se rendre pour la première fois à l'intérieur du bâtiment.
Oui, c'est une étape importante pour l'enquête parce qu'il faut comprendre que la structure est encore jugée non sécuritaire. Donc, les enquêteurs, les pompiers spécialisés ne peuvent pas se rendre à l'intérieur du bâtiment pour, entre autres, aller récupérer les corps parce que je vous rappelle qu'il manque toujours 6 personnes. Et on peut maintenant confirmer que ces 6 personnes sont originaires du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui? C'est que les enquêteurs et les pompiers spécialisés en sauvetage technique ont pu monter à bord d'une nacelle et ils ont pu pénétrer à l'intérieur du bâtiment par le toit. Et le toit s'est complètement affaissé. Et c'est de cette manière, donc, que les enquêteurs ont pu donc, se rendre à l'intérieur pour aller prendre des photos, tenter de récupérer les corps. Et on nous dit du côté du SPVM que les enquêteurs ont une bonne idée jusqu'à présent où se situent les corps à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, une fois que les corps seront récupérés, bien, c'est une toute autre logistique assez complexe, difficile même, parce qu'on va devoir identifier ces corps-là. Et là, bien, on attend de voir l'état des corps qui seront retrouvés. Et ce matin, les autorités ont fait le point. Le bureau du coroner était sur place, une représentante du bureau du coroner, ainsi que la directrice générale du laboratoire de sciences judiciaires médico-légales, parce que c'est un travail qui sera complexe d'identifier ces corps-là. On écoute la directrice générale à ce sujet.
Les normes internationales en matière d'identification obligent l'utilisation de 2 méthodes d'identification, dont une doit obligatoirement être scientifique et vous comprendrez que c'est pour éviter les erreurs d'identification. On a déployé au cours des derniers jours la ligne rapide de traitement de l'ADN au laboratoire, ce qui nous permet d'avoir des résultats dans un délai de 48 heures. Alors, je vais assurer les familles qu'on va travailler sans relâche pour être en mesure d'identifier l'ensemble des victimes.
Donc, l'enquête se poursuit. Lorsqu'on parle des causes derrière cet incendie mortel, je vous rappelle qu'il a fait 7 morts. Et les autorités demandent actuellement aux proches des familles de leur apporter des items pour tenter, pour les aider à les identifier. Parce que l'identification va se faire, on vient de l'entendre, soit par ADN, soit par dentition. Bref, un travail assez complexe. On reste sur place, évidemment. Le prochain point de presse est à 8 heures demain matin. On va voir si on aura des nouvelles au niveau de la découverte de corps supplémentaires à l'intérieur du bâtiment, notamment.
Merci beaucoup, Marie-Michel.
Au revoir.
Maintenant, nouvelle révélation troublante à la commission parlementaire sur les inconduites sexuelles dans le hockey junior. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a déclenché une autre enquête sur de nouvelles allégations. Louis-Philippe, on a peu de détails, mais ce qu'on sait que ce serait des événements qui se seraient survenus dans les années 90.
Première moitié oui, des années 90.
Et ouais. Que la LHGMQ a été mise au courant dans les derniers jours de ces événements.
Exactement, au cours du week-end, c'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Donc, début des années 90, on parle de gestes qui seraient liés à ces fameuses activités d'initiation de recrues. Et la LHGMQ a été assez avare de détails aujourd'hui, n'a pas voulu identifier l'équipe, la date exacte. On dit vouloir protéger la présumée victime, protéger aussi le processus d'enquête. Mais Étienne, ça s'ajoute, ça, un autre dossier à tous les autres dossiers de discrimination, de violence sexuelle qui ont été révélés au cours des dernières semaines au sein du hockey junior au cours des dernières décennies. Donc aujourd'hui, en commission parlementaire, le directeur par intérim, le futur commissaire également de la ligne, ont réagi. On dit que le changement de culture est en action, mais ce sera long. On travaille également à mettre un nouveau processus de plainte un processus indépendant en place. Et on a rencontré au cours des dernières semaines et des derniers jours encore tous les joueurs, tous les dirigeants, tous les propriétaires et tout le personnel derrière les bancs pour les sensibiliser à ces enjeux. Et sur cette nouvelle enquête, eh bien, on dit vouloir faire toute la lumière.
Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsque nous sommes mis au courant, nous prenons action. Puis aujourd'hui, moi, ce que je me suis engagé de faire à mon arrivée à l'intérim, c'est de m'assurer que dès lors, on allait se retrousser les manches pour s'assurer de pouvoir aller de l'avant puis de mettre en place des programmes ou des politiques ou codes du vestiaire qui allaient être...
Ce dossier est encore ouvert. C'est clair que dès mon arrivée en poste, on va accélérer le processus pour arriver à une résolution, en tout cas, ou du moins une compréhension.
Mais pendant ce temps-là, la Ligue dit qu'on a de la difficulté à trouver du financement pour des programmes de prévention de ce type d'action-là, justement.
On dit avoir fait des demandes, trois demandes, en fait. Un au palier fédéral, deux au palier provincial pour financer un programme de prévention qui, justement, toucherait à la violence sexuelle, à la masculinité toxique, à la culture du hockey qui est parfois négative. Et on dit ne pas avoir reçu de réponse positive de la part des deux paliers gouvernementaux. Ah ouais. De l'autre côté, il y a un expert qui dit aujourd'hui en commission parlementaire, ça fait un an et demi que je travaille sur ce programme et on n'a toujours pas d'argent, non pas du gouvernement, mais non plus de la Ligue. Ah ouais. On peut les écouter.
On travaille depuis 18 mois maintenant à développer un programme de prévention primaire. Bien, évidemment, on demande de l'argent à la Ligue, on demande de l'argent... Avez-vous de l'argent, les équipes? On demande de l'argent à certains ministères. Bien, tout le monde trouve que notre idée est excellente, mais pour le moment, on n'a pas trop de réponses.
Avez-vous vraiment besoin de passer le chapeau au gouvernement ou si vous êtes assez déterminé pour dire bien, on va prendre l'argent dans notre pote là, puis on va le faire, le programme?
Est-ce que je crois que ce genre de programme-là va devenir prioritaire, aujourd'hui, je serais porté à dire que oui, okay, ça va devenir prioritaire, mais je vais me laisser le temps de regarder le tout dans son ensemble.
Donc, beaucoup de pression sur ce futur commissaire. Également, peut-être d'autres révélations, d'autres détails sur la situation au sein de la GMQ, la commission parlementaire qui se poursuit donc demain et jeudi.
On va suivre ça. Merci beaucoup.
Plaisir.
Bonne soirée. Donald Trump sera-t-il finalement inculpé dans l'affaire Stormy Daniels? L'incertitude plane toujours aux États-Unis. On en parle après la pause. On est mardi. Donald Trump a annoncé qu'il serait arrêté aujourd'hui, mais pour l'instant, à quoi, 17h22, toujours rien. Par contre, il y a eu des manifestations en appui à Donald Trump un peu partout aux États-Unis et toute une mobilisation policière. On en parle avec Valérie Beaudoin qui surveille ça depuis quoi, une semaine?
Depuis samedi soir.
Depuis samedi soir, ouais, oui, c'est ça, depuis ses premières affirmations-là de Trump. Pour l'instant, il est un homme libre.
Oui, pour l'instant, Donald Trump, pas arrêté, pas derrière les barreaux, pas d'accusation non plus. Il avait dit que c'était aujourd'hui, mais on n'avait pas de certitude du tout. Au contraire, même les procureurs à New York, ils ne voulaient pas confirmer qu'il va y avoir des accusations. Donc, même cet élément-là, Étienne, on n'est pas certain que Trump sera accusé. On ne sait pas c'est quand. Et les dernières informations qui circulent dans les médias, et ça, c'est non confirmé, il pourrait être arrêté, donc accusé plutôt demain et comparaître la semaine prochaine. Mais encore une fois, on a dans cette espèce de flou. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui va s'avérer ou non.
Un tas de rumeurs.
Oui.
Entourant évidemment le pot de vin qu'il aurait remis donc à une star porno là,
oui,
à l'époque.
Stormy Daniels.
Exactement. Et là, on peut se demander politiquement quel effet ça peut avoir sur sa candidature, sa campagne, là. Positif ou négatif?
Pour l'instant, c'est assez positif parce que Trump est quand même en hausse dans les sondages. Comparativement aux autres candidats républicains, là, en ce moment, il est en hausse, donc il est en bonne posture. Et ça force tout le monde à se positionner. Et ça, c'est vraiment l'élément central pour moi de l'événement. Et le fait que Trump contrôle le message, c'est lui qui a sorti la nouvelle, il oblige qui? Tous les républicains, même les gens avec qui il ne s'entend pas nécessairement bien, à le défendre, à critiquer le procureur de New York, à dire qu'on fait de la politique et que c'est pas de la justice, au contraire. Donc, pour l'instant, ça va bien, mais on verra s'il y a des effets, s'il y a vraiment une véritable arrestation, si les gens vont être peut-être un peu un jour tannés de tous ces scandales entourant Donald Trump.
Et il espère une mobilisation. On l'a vu, il encourage ses partisans à sortir dans la rue. Oui. Est-ce que ça a fonctionné?
Mais pour l'instant, on voit pas. Là, il y a des gens qui craignaient un 6 janvier 2021, deuxième version. Pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'on ne sait pas à quel moment il va être arrêté, on ne sait pas dans quel contexte. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas la même mobilisation. Les gens sont peut-être un peu plus prudents aussi.
Oui.
Ça prend juste un événement, par contre, isolé pour avoir une escalade. Donc, les policiers sont aux aguets un peu partout aux États-Unis, particulièrement autour du palais de justice à New York.
On a vu les petites manifestations en Floride, notamment, puis les policiers qui sont mobilisés, mais pas de débordement
pour l'instant.
Qu'en est-il des autres dossiers d'enquête qui touchent Trump en ce moment? Là?
La pile est assez élevée. Hein?
Oui.
Et même le dossier de Stormy Daniels, qui est un dossier qui touche peut-être la fraude électorale, la falsification de documents pour avoir remis ce pot de vin de 130 000 $ Mais mieux, on l'avait presque oublié, hein, parce que ça date de la campagne de 2016. Il y a beaucoup d'autres dossiers qui intéressent les enquêteurs un peu partout. Entre autres, en octobre de cette année, il y aura un procès au civil pour la Trump Organization, la compagnie de Donald Trump. Il est visé, ses enfants aussi, pour de la fraude fiscale. C'est un premier dossier. Il pourrait y avoir un dossier en parallèle au niveau criminel, toujours pour la Trump Organization. Je t'ajoute à ça, en Géorgie, il y a un grand jury qui doit se prononcer. Est-ce qu'on aura des accusations ou non pour Trump, pour d'autres personnes? Il cherchait les fameux 11 000 votes, la pression, donc, pour pouvoir renverser le résultat électoral en Géorgie pour l'élection de 2020. Et on rajoute à ça les fameux documents classifiés retrouvés à Mar-a-Lago. Il y a aussi une enquête. Et j'oublie aussi le 6 janvier 2021. Oui. On a aussi une enquête en parallèle à savoir s'il y a un lien entre Trump. Est-ce qu'on peut l'accuser par rapport à ce qui s'est passé au Capitole?
Donc, c'est pas fini. Et pendant ce temps-là, il obtient beaucoup de visibilité médiatique.
Tout à fait.
C'est peut-être ça son intention.
Et c'est ce qu'il souhaite. Et c'est ce qu'il souhaite, à mon avis, d'être au centre de la conversation. C'est ce qui se passe jusqu'à maintenant.
Merci, Valérie.
Merci,
Étienne.
À bientôt.
Merci. Bye bye. Le point sur les allégations d'ingérence étrangère dans les élections fédérales. La chef de cabinet du premier ministre, Katie Telford, va finalement témoigner devant le comité qui se penche sur ces révélations. Katie Telford comparaîtra pendant au moins 2 heures, entre le 3 et le 14 avril. Ce revirement de situation est survenu quelques heures avant un vote prévu aux communes sur une motion conservatrice. Les conservateurs réclamaient le témoignage de la chef de cabinet devant un autre comité, celui de l'éthique. Yves Boisvert, bonsoir.
Bonsoir, Étienne.
Ce soir, on parle de la Russie en colère contre Mélanie Joly, qui a dit qu'un changement de régime potentiel en Russie semblait se profiler à l'horizon. La Russie qui n'a pas accepté ça, hein?
Évidemment que non. Écoute, de toute manière, tu comprends, le Canada est membre de la Cour pénale internationale et la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt pour crime de guerre contre Vladimir Poutine. Alors, donc, de toute manière, il est persona non grata dans tous les pays qui sont membres de la Cour pénale internationale, donc même le Canada. Il est déjà lui-même l'effet de sanctions personnelles ainsi que plusieurs autres dirigeants russes. Ça ne changera pas grand-chose, mais la question, Étienne, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais Joe Biden avait fait le même genre de commentaire, c'est-à-dire qu'il avait souhaité un changement de régime en Russie. Là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que ça alimente la propagande russe qui veut que l'Occident tente d'agresser la Russie. Alors, avoir des dirigeants étrangers qui disent « il faut renverser Poutine », ça lui permet à lui de dire « vous voyez, c'est pour ça, l'Ukraine, j'ai raison d'y aller parce que c'est une agression de l'Occident ».
Ah oui. Là, la Russie a quand même convoqué le représentant canadien en Russie pour le sermonner. Mélanie Joly, là, absolument en diplomatie, on est quand même prudent, là, on parle à mots couverts. Est-ce que Mme Joly a été trop loin ou c'est pas le cas?
Écoute, comme je te dis, le contexte général, ça ne changera pas grand-chose et c'est tellement déjà tendu. Il y a une guerre par personne interposée avec la Russie. Mais est-ce que c'est utile? Je pense que non. Il y a comme une ligne fine, subtil dans les reproches qu'on peut faire. En appeler à un changement de régime, le souhaiter, c'est pas nécessairement une bonne idée. Mais comme je te dis, on est déjà assez loin dans les mauvaises relations.
Absolument. Parlant de Russie, visite du président chinois Xi Jinping pour un sommet de 3 jours avec Vladimir Poutine. C'est quoi le message qu'ils veulent envoyer?
Bien, le message qu'ils veulent envoyer, c'est que c'est maintenant la Chine qui contrôle le jeu international. La Chine de Xi Jinping veut être le leader mondial, que le déclin des États-Unis comme puissance se poursuit et qu'eux peuvent être des facteurs de pacification. Écoute, c'est la Chine qui a rapproché l'Iran et l'Arabie saoudite. Ouais. Ça a l'air de rien, mais c'est deux ennemis mortels au Proche-Orient. Leurs relations diplomatiques se sont rétablies la semaine dernière avec l'entremise de la Chine. Là, ils ont signé 14 accords économiques avec la Russie aujourd'hui même. Donc, pendant que l'Occident poursuit, entre guillemets, en justice Poutine, ben, il est tout sourire avec Xi Jinping en voulant dire, ben, nous, on est capable de faire un bloc contre l'Occident, puis vous êtes plus dans le coup du tout. C'est ça le message.
Merci beaucoup, Yves.
À demain.
À demain. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle@nouveau.info. Je retrouve maintenant notre animateur des bulletins locaux, Jean-Simon Buis. Bonsoir, Jean-Simon.
Bonsoir, Étienne.
Il y a un ado de 16 ans de Trois-Rivières qui a décidé de s'impliquer pour faire bouger les choses en santé mentale.
Oui, il s'appelle Steven Bilodeau, Étienne, et c'est un jeune qui est très impliqué depuis plusieurs années, notamment pendant la pandémie. Il a élaboré une ligne d'entraide avec les aînés en CHSLD pour les appeler. Ça s'appelait Solid Aîné. Et là, il regarde ce qui se passe à Amqui, Montréal, Laval dans les dernières semaines. Il dit ça pas de bon sens. Il interpelle les politiciens pour prendre action en santé mentale, plus de ressources, travailler avec les acteurs du milieu. C'est un comité, en fait, qu'il a créé pour s'asseoir avec les décideurs et tenter de mettre de l'action dans tout ce qui est santé mentale, notamment chez les jeunes. Je vous invite à écouter Stephen avec le message qu'il veut lancer au premier ministre ainsi qu'au ministre.
Tant au ministre qu'au chef des oppositions de s'asseoir avec nous puis d'écouter ce qu'on a à leur dire. Je pense qu'il faut vraiment changer les choses. Il faut que les services soient plus adaptés dans nos écoles, mais aussi à l'extérieur de nos écoles pour prévenir des situations problématiques. Vous savez, la majorité des cas de problématiques de santé mentale sont déclarés dans l'enfance ou l'adolescence. Donc, je pense que c'est le bon moment pour que les changements se fassent, pour que nos jeunes puissent être mieux outillés là, pour le futur avec la hausse significative là, des problèmes de santé mentale chez les jeunes.
Comme vous l'avez vu, c'est un jeune homme qui s'exprime très, très bien. Il a même convaincu Chantal Lacroix de joindre son comité. Tous les détails dans quelques instants au Fil Mauricie.
Intéressant. Merci beaucoup, Jean-Simon. Bon bulletin. Bonne soirée. Des employés de la Ville de Montréal qui se disent victimes de racisme réclament une enquête publique indépendante sur la question. Les témoignages d'employés racisés s'accumulent. Véronique Dubé a d'ailleurs rencontré un homme qui a enduré des commentaires et des agissements pendant des mois avant d'être remercié des événements qui se seraient déroulés au service des incendies.
2021, l'employé en question devient le premier homme noir à accéder à un poste de gestion ici, au Centre de communication du service incendie. Il est originaire de Montréal, il est fier de lui.
Donc, je sentais que j'allais occuper un poste qui allait servir à quelque chose. Donc, on parle de sauver la vie des gens, on parle d'un milieu qui est très dynamique. Moi, ça me plaisait énormément.
Il vient de l'externe et doit apprendre une dizaine de logiciels, maîtriser 7 ordinateurs. On lui donne une formation qu'il juge insuffisante.
La discrimination, je l'ai sentie également parce que quand il téléphone sonnait, on savait que c'était moi qui répondais, on raccrochait. Ça arrivait constamment. Puis ça, c'était des appels qui provenaient des casernes. Quand les gens des casernes appelaient pour une information, moi, normalement, j'ai ce qu'on appelle une préposée principale. Donc, dès que ça tombait sur moi, on raccrochait. Quand ça tombait sur elle, il répondait. Puis cette personne-là, ça a été une des personnes les plus viles que j'ai croisées. Elle ne cachait même pas son agressivité envers moi. Elle ne la cachait même pas. Ça a été... c'était horrible de traiter avec elle. Quand je posais une question, mais les questions que je posais étaient stupides. Comment ça se fait que tu ne connais pas encore ça?
Au fil du temps, il découvre que 2 vidéos à teneur raciste circulent dans le service, dont une de journalistes haïtiens. Et les gens se moquent de leur accent.
Ça se faisait sur les lieux du travail?
Ah oui, tout à fait sur les lieux de travail, puis avec des éclats de rire, puis on se moquait plus ou moins des Haïtiens à l'interne. Or, nous étions 2 Haïtiens. Il n'y avait pas plus que 2 Haïtiens qui étaient à l'interne. Et je me suis senti humilié.
Un jour, sur l'un des écrans de la centrale, un reportage sur les migrants est diffusé. Un employé dit qu'il est contre l'immigration.
Moi, je me suis approché et j'ai dit à l'individu, vous savez, bon, les immigrants, bon, ce qu'ils cherchent, c'est à s'intégrer de un, et puis ils sont jamais contents de quitter chez eux. J'ai également entendu des commentaires anti-autochtones.
Il a finalement été remercié par la ville. Il a déposé une plainte à la division du respect de la personne qui n'a rien fait.
Donc, c'est un peu comme si on demandait à la police d'enquêter sur elle-même.
Lorsqu'il approche les institutions, les services comme le respect de la personne, par exemple, les gens sont souvent dissuadés d'aller de l'avant. On leur dit, c'est ta parole contre la leur.
L'opposition à l'Hôtel de Ville a déposé une motion d'urgence pour qu'une enquête indépendante soit déclenchée, mais l'administration Plante a refusé d'en débattre pour l'instant.
Quand on voit l'entièreté des témoignages qui ont été faits, c'est lui qui vous m'est rapporté et les autres qu'on a vus, de toute évidence, les actions que la Ville saisit d'entreprendre ne fonctionnent pas en ce moment. Ça ne marche pas.
Voilà que c'est la Commission des droits de la personne qui a finalement décidé d'ouvrir une enquête sur le service.
On n'a pas été obligé de me cracher au visage. On n'a pas été obligé de m'affubler du mot en haine pour que je sache que c'était du racisme.
Maintenant, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, déclenche une enquête sur les allégations d'inconduite sexuelle dans certaines écoles ou de comportements inadéquats portés à son attention. Cette initiative fait suite à plusieurs dénonciations d'élèves et de parents, notamment à Cowansville. Des parents et des élèves de l'école secondaire Massé-Vanier ont récemment dénoncé l'inaction de la direction. Ils déplorent notamment que les présumées victimes doivent continuer de côtoyer leurs présumés agresseurs dans les salles de classe. Coup de théâtre à l'enquête publique sur les décès de Martin Nora et Romy Carpentier. Elle est suspendue au moins jusqu'à la fin mai. L'Association professionnelle des officiers de la Sûreté du Québec s'oppose à l'audition d'Alain Croteau, un ancien coordonnateur de la recherche terrain au sein de la SQ. Il devait témoigner à titre d'expert aujourd'hui. L'association estime qu'Alain Croteau n'est pas impartial ni indépendant parce qu'il aurait déjà émis publiquement des opinions sur le travail des policiers. Le coroner Luc Malouin prendra les prochaines semaines pour trancher. On vient ce soir sur cette double tentative de meurtre survenue hier à Québec. Le Bureau des enquêtes indépendantes va se pencher sur la mort du suspect qui a été atteint par balle par des policiers. L'homme avait blessé deux femmes à l'aide d'une arme blanche tout juste avant. Jacques-Alain Houle nous donne les détails.
Je me trouve au coin de l'avenue Chèvremont et du chemin Sainte-Foy, où hier, les policiers ont été appelés pour maîtriser un homme qui venait d'attaquer sauvagement deux femmes à l'arme blanche. Les deux femmes ont été transportées à l'hôpital et on craindrait pour la vie d'une d'entre elles. Pour ce qui est de l'homme, les policiers l'ont finalement abattu, lui qui ne voulait pas se rendre. Son décès a été constaté à l'hôpital ce matin. Dans une vidéo prise par une résidente du coin, on peut voir que les policiers avaient érigé un périmètre autour du suspect et, caché derrière leur véhicule, demandaient à l'homme de déposer ses couteaux.
Tu vas te faire tirer dessus, innocent!
Après plusieurs avertissements et appels à se rendre, l'homme a commencé à avancer vers les policiers et ils ont ouvert le feu. Il a été maîtrisé par plusieurs policiers et transporté en ambulance par la suite. Le Bureau d'enquête indépendante a été appelé sur les lieux afin de faire la lumière sur les événements et la Sûreté du Québec a déclenché une enquête parallèle.
Il y a 7 enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes qui a été déployé, plus un superviseur d'enquête, pour faire la lumière là, sur l'ensemble des circonstances et des faits. Et j'inviterai en fait quiconque qui aurait été témoin ou qui voudrait partager de l'information à nous joindre.
Beaucoup de questions encore aujourd'hui après l'annonce hier de l'augmentation d'$1 milliard des coûts pour la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Il y a encore 6 mois, on nous disait que le projet allait coûter $1,4 milliard. La facture est maintenant de $2,5 milliards. Le gouvernement québécois se justifie, on le rappelle, en disant que la structure est plus endommagée que prévu. Pour en parler, je reçois Pierre Barriot, spécialiste en planification du transport. Bonsoir.
Bonsoir.
Augmentation d'$1 milliard, c'est quand même astronomique là, comme dépassement de coûts. Comment vous réagissez d'abord à
bien,
ça?
Je vous dirais, il y a quelques années, quand on a commencé à parler du projet, on était en dessous de 500 millions. Oui. Après, c'était légèrement au-dessus de 500 millions. On a eu un ajout d'un autre milliard l'année dernière. Là, c'est le milliard cette année encore. Et ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est quand le gouvernement a décidé de rénover le tunnel et non de construire le nouveau pont, il s'est dit à 500 millions de dollars, c'est une aubaine, ça nous donne un autre 40 ans. Là, ce qu'il faut se poser la question, c'est à 5 fois le prix, à 2,4 milliards, et là, c'est 2,4 milliards présentement.
Oui.
Ça fait seulement quelques mois que le chantier est débuté, donc il peut y avoir encore plein d'autres choses qu'on va découvrir. Est-ce que c'est pas justement le temps de prendre une pause et se positionner à savoir est-ce que c'est toujours intéressant de réparer le pont ou est-ce qu'on recommence à neuf?
Vous lancez, vous, ce pavé-là dans la mare, vous dites peut-être qu'on devrait juste mettre les travaux sur pause puis penser à un autre projet ou se dire qu'est-ce qu'on fait avec le projet actuel qui semble un fossé sans fond presque.
Bien, je vous dirais, le nouveau pont Samuel de Champlain a coûté 4,2 milliards. C'est un pont qui est plus long. C'est un pont qui est plus large. Oui. Il y a le REM dans le milieu et ça inclut le démantèlement de l'ancien pont pour 4,2 milliards.
En même temps, on ne laisse pas tomber nécessairement le pont-tunnel. Vous diriez on abandonne le pont-tunnel, Louis-Hippolyte-Lafontaine?
Non, tout simplement, à l'intérieur de l'enveloppe, on est capable de juste le retaper, le sécuriser pour durer le chantier. Vous savez, au Québec, on a parmi les meilleurs ingénieurs au monde. On est en mesure d'arriver avec un nouveau concept de pont et le faire approuver en 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans max, incluant pour arriver à la durée du chantier, un chantier de 5 ans. Ça veut dire dans 8 ans, on pourra avoir un pont flambant neuf pour une facture qui serait légèrement plus élevée qu'un pont tunnel réparé qui arriverait peut-être une année seulement avant.
On verra si le gouvernement vous entend dans les prochains jours, comment il va réagir à cette idée-là. Mais pour les gens qui nous écoutent à la maison, ça alimente le cynisme, ça. Je l'ai vu dans le journal en 2019, c'est écrit 500 millions, oui. Comme vous dites. Là, on est rendu à 2,5 milliards. Comment dépassement de coûts, est-ce que c'est normal vraiment? Ou est-ce qu'on pourrait mieux planifier les projets?
Il y a 2 choses. Bien, en fait, il y a 3 choses. Quand on rénove, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver quand on ouvre les murs. C'est comme quand on rénove une maison. Deuxièmement, le pont-tunnel, c'est pas un tunnel au sens que les gens le perçoivent habituellement. Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, c'est une structure de béton qu'on a mis dans le fond du fleuve Saint-Laurent et qu'on a recouvert de roches. Donc, c'est impossible de voir très bien c'est quoi son état de l'extérieur. Et troisièmement, il y a quand même l'inflation causée par les agissements en Ukraine ainsi que les problèmes économiques. Donc, tout ça mis ensemble nous amène à la situation actuelle qui commence à remettre vraiment en question la pertinence de sa rénovation.
Donc, il y a tout un contexte. Et on verra si le gouvernement va entendre votre message. Mais il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent ces jours-ci. Puis les gens à la maison s'en posent aussi. Pierre Barriot, merci d'avoir été là, de nous avoir éclairé sur la situation.
Grand plaisir. À bientôt.
Bonne soirée. Au revoir. Au retour, on vous montre comment ça se passe dans une classe de francisation et comment on apprend la langue à un groupe de jeunes. Le nombre de classes d'accueil dans la grande région de Montréal est en forte croissance. C'est le cas d'ailleurs au Centre de services scolaires de Laval. Il y a quelques années, il y avait seulement quelques classes. Là, on en compte plus d'une trentaine. De nombreuses activités sont organisées pour faciliter l'intégration des jeunes. Sabrina Rivet a assisté à l'une d'elles.
L'atelier auquel on assiste aujourd'hui est donné dans de nombreuses classes d'accueil au Centre de services scolaires de Laval. Le but, eh bien, c'est de faire connaître la culture québécoise aux nouveaux arrivants tout en gardant leur bagage culturel.
On va travailler avec ces équipes-là, OK? Et aujourd'hui, vous allez coller, donc, ce que vous avez fait.
C'est quoi le projet aujourd'hui?
Le projet, à la base, on est parti de chansons québécoises. Donc, dans ce cas-ci, c'est « Ça va venir, découragez-vous pas de la Bolduc ».
Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gris et je continue à faire lutter.
Et on est parti de chansons québécoises qu'ils ont écoutées et on a surtout traduit certaines expressions québécoises particulières.
Okay.
Parce que l'idée, c'était qu'ils puissent connaître la culture québécoise, mais aussi qu'ils puissent le traduire dans leur langue pour pouvoir s'approprier les expressions aussi.
Prendre la colle et tout fait fort.
L'origine de ce projet-là, en fait, c'est Cara Carmina, donc, dont les visages sont là. L'artiste travaille avec nous en collaboration et elle adore les expressions. Donc, elle a travaillé ça en street art. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se familiariser avec la culture québécoise. Donc, on leur dit pas quoi aimer, quoi pas aimer de la culture québécoise. Ils choisissent bien ce qu'ils veulent. Ils ont le droit, tout à fait. Et aussi pour pouvoir l'amener dans leur culture un petit peu partout aussi, en espagnol, en perse, en plein de langues. Donc, c'est vraiment cette idée-là.
Lorsqu'on enseigne dans une classe d'accueil, il y a de nombreux défis. Et c'est le cas, même si ça fait plus de 30 ans que vous œuvrez dans ce domaine.
Au tout début, il n'y avait pas beaucoup de classes d'accueil dans les écoles. Il y avait peu d'écoles aussi qui accueillaient les classes d'accueil. On avait une classe, deux classes pendant très, très longtemps. Ça se limitait à ce nombre-là. On accueillait des élèves qui avaient un parcours scolaire différent de ceux qu'on accueille présentement. Ils étaient scolarisés et donc les apprentissages se faisaient plus rapidement, disons, avec les élèves du passé. Depuis quelques années, les classes d'accueil, ça explose dans les écoles à Laval, à Montréal, même sur la Rive-Sud.
On parle combien de langues dans votre classe?
Je dirais 5 langues. Beaucoup parlent arabe. Il y a du créole, il y a du dari, de l'anglais, de l'espagnol.
Hola, me llamo Camila y vengo de la República Dominicana.
Marhaba, ana esmi Pamela, wana min Suria.
Moi, je suis Angel, moi, je viens d'Haïti et je viens là pour m'apprendre français.
Marhaba, esmi Jamal, je viens de Palestine. Bonjour, je m'appelle Jamal et je viens de Palestine.
Donc, on accueille beaucoup, beaucoup d'élèves et la différence, c'est que les élèves ont un parcours scolaire différent. Souvent, ils sont réfugiés, ils sont allés peu à l'école. Donc, le défi est de les scolariser rapidement parce qu'ils arrivent ici à 12, 13, 14 ans. Donc, rapidement, il faut les amener vers le secondaire 5, les franciser rapidement. Et ça, c'est un grand défi pour les professeurs de français en accueil et en mathématiques aussi en accueil.
On va entendre Guy résonner à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières du 19 juillet au 19 août. C'est le titre, ça, du spectacle qui s'inspire de la vie de Guy Lafleur pour ce 7e volet de la série Hommage du Cirque du Soleil. Fernand Rainville s'occupera de la mise en scène et Philippe Brault de la musique. L'équipe de création est à la recherche en ce moment d'un jeune hockeyeur de la région pour compléter la distribution.
Un être comme Guy Lafleur qui contribue, que tout le monde en même temps scande Guy, c'est aussi une expérience physique, émotionnelle, hors du commun, unique, Et c'est un petit peu ça qu'on voulait transporter avec le titre du spectacle. On est à la recherche d'un des personnages, principaux du spectacle, qui serait un jeune joueur de hockey, qui serait de la région de Trois-Rivières, quelqu'un qui a envie de faire de la scène, mais qui aussi est passionné et joue au hockey. Donc, on est à la recherche d'un jeune entre 11 et 15 ans qui est impliqué dans le milieu du hockey et qui a envie d'avoir une belle job d'été, en fait.
Un petit avant-goût du nouveau talk show animé par Marc Labrèche. Ça s'appelle « Je viens vers toi ». Ce sera diffusé dès le 11 avril sur les ondes de nouveau. Guylaine Tremblay, l'ancien maire de Québec, Régis Labombe, Élise Guilbeault, Ricardo Larrivée, Fabien Cloutier feront notamment partie du groupe de 12 collaborateurs. L'émission sera diffusée les mardis et mercredis à 20h pendant 10 semaines. Le talk show va entremêler les entrevues, des parodies, des sketchs et des prestations musicales. Bonsoir, Michel.
Salut, Étienne.
Bon, là, le gouvernement dit que si les Canadiens partent en voyage cet été, ils pourront avoir leur passeport.
Oui, bien, ça devrait. C'est ce qu'a confirmé, en tout cas, qu'a avancé la ministre du Développement social, Karina Gould, aujourd'hui. Elle affirme que Service Canada a presque doublé, en fait, son nombre d'employés puis qu'ils ont accéléré également la formation. Donc, deux bonnes nouvelles. Mais la ministre recommande quand même aux Canadiens de se prendre d'avance pour faire leur demande de passeport s'ils savent qu'ils doivent voyager. Vous voyez l'avertissement, là, c'est écrit en gros.
Allez-y. Un peu d'avance, c'est un peu normal. Oui, hein? Mais pas d'autres prises des passeports en vue, en théorie.
C'est ça, pour le moment.
Au débatteur, puis au 22, bien, vous allez parler du budget, évidemment.
Oui, le budget, le cinquième budget Girard. Bien, justement, le ministre des Finances, Éric Girard, sera mon invité à 22h. On va revenir, bien sûr, sur la baisse, les baisses d'impôts qui ont été confirmées. Concrètement, c'est quoi? C'est entre 8 et 814 $ selon le revenu du contribuable. Mesure qui ne fait pas l'unanimité. Certains disent que ça profite davantage aux plus riches qu'aux plus pauvres. Et c'est peut-être pas le moment. D'ailleurs, notre question au débatteur, est-ce que baisser les impôts en ces temps d'instabilité, c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? On va en débattre avec François Lambert, Anthony Gnaccarini, on aura Déborah Cherenfant et également Rodolphe Husny, c'est à 22h30.
Bon débat, merci Michel. Bye bye. À bientôt, bonne soirée à tous.